ferons la lecture de la parole de Dieu ce matin dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 18. Luc 18, les versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans chacun de nos cœurs.
Je remercie le Seigneur de me permettre de vivre ce moment d'adoration avec vous ce matin. Et je voudrais vous transmettre à un complément du message de notre frère Lionel qui tout à l'heure a rendu témoignage et a chanté à la fin de l'école du sabbat. Juste qu'il avait omis de vous dire qu'il s'est réconcilié avec son épouse. Ce qui justifie, c'est pourquoi tout à l'heure et il a parlé de la repentance et exprimé ce désir d'être pardonné à la fois de Dieu et des hommes. Donc voilà, le complément d'information est là pour que vous sachiez donc quelle est sa situation familiale devant l'Église et devant Dieu. Nous sommes aujourd'hui un premier sabbat du mois, donc c'est le sabbat de l'évangélisation, le sabbat missionnaire, et je voudrais vous rappeler que cet après-midi, nous aurons une rencontre d'évangélisation à 15h30. Mais cette semaine qui est devant nous, vous avez entendu l'annonce, nous allons avoir 5 soirées où nous voulons vous inviter à les passer avec nous. 5 soirées de prise de conscience avec 5 pasteurs différents qui vont venir ces différents soirs, lundi jusqu'à vendredi. Donc on vous invite à 5 soirées à passer une heure avec Jésus. Et c'est vrai que la thématique part dans le titre même à partir d'un reproche que Jésus avait fait à ses disciples dans le jardin de Gethsémané. « Vous n'avez pu veiller une heure avec moi. » Jésus avait besoin d'un soutien, d'une dynamique d'action par la prière, alors que l'événement crucial allait se faire en moins de 24 heures après. Et les disciples dormaient. Voilà, expérimentons la puissance et dès lundi soir à 18h30, nous commençons donc avec le pasteur Jean-Claude Alger et on vous invite à pouvoir être présent. Vous avez aussi le programme affiché, le programme dans le détail affiché par soir. Nous en parlerons de nouveau cet après-midi. Et cet après-midi aussi, à 15h30, on vous invite, parce que les églises de Sud-Léo sont invitées à ce moment que nous allons vivre dans un mois maintenant, si la date est bien maintenue. C'est pour ça que je me réserve cet après-midi pour vous donner toutes les informations nécessaires et certains détails, parce qu'il faut que moi et les pasteurs du tampon, donc le pasteur Frédéric, le pasteur Harry, on puisse revoir un petit moment la commission d'évangélisation à 14h30. Mais je vous invite vraiment à être là avec nous pour que nous puissions partager avec vous les éléments d'information essentiels, parce que on va dire que pour nous le compte à rebours a commencé, puisque effectivement donc un petit peu plus d'un mois nous commencerons notre campagne d'évangélisation. Donc rendez-vous cet après-midi à 15h30 avant donc que la chorale puisse commencer à répéter. Nous sommes dans une dynamique de prise de conscience et de réveil. Et chaque fois que je suis au tampon, je garde cette idée-là que je partage avec vous. Nous cheminons ensemble et même si je suis avec vous assez dans un espace de temps assez espacé quand même, je garde quand même un certain fil conducteur. Donc, je poursuis la réflexion que j'ai commencée avec vous au niveau de la prise de conscience. C'est la troisième prédication que je commence avec ce texte le même. Lamentation de Jérémie au chapitre 3 et le verset 40. Je vous invite à reprendre donc le texte avec moi parce que je trouve que c'est un texte de prise de conscience et de réveil extrêmement important. Et bien approprié, bien pertinent en tout cas. Donc, Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et le verset 40. On finira par le connaître pratiquement par cœur, ce texte. Lamentation. Chapitre 3, verset 40, nous lisons « Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel ». Donc un appel est lancé au peuple de Dieu à rechercher, à sonder et à retourner à l'Éternel. Donc à reconsidérer l'attitude, le comportement, notre manière de vivre la foi que nous professons. Et je vous avais proposé quelques versions différentes, Maritsu, Crampon, où nous avons quelque chose, des verbes un peu différents. Examinons, scrutons notre conduite. Scruter, c'est-à-dire, donc, regardons un petit peu dans les détails la façon dont nous vivons les choses et voyons s'il n'y a pas des choses à rectifier. Ensuite, il est possible de revenir au Seigneur. Comme quoi, un réveil demande véritablement une lucidité, un examen, un sondage. Ça demande à sonder profondément avant de penser à revenir vers l'Éternel. Un autre texte dans la Bible en français courant, examinons comment de près notre conduite et revenons au Seigneur. Cette semaine, parmi les nouveaux contacts que j'ai établis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait demandé de venir et cette personne appartient à l'église Extravagance. Nous avons eu un très bon contact ensemble. Cette personne voulait me rencontrer parce que cette personne vit un moment extrêmement difficile, douloureux dans son cœur, dans son esprit, mais aussi dans sa maison qui semble être infestée de mauvais esprits. Mais des problèmes de tous les côtés qui l'a amené à tenter à plusieurs reprises de se suicider. Cette personne me racontait donc tout son désespoir total. Donc, s'il y a eu tentative de suicide, il y a bien eu au moins 4 ou 5. Hein. Son désespoir total et sa tentative désespérée de trouver une solution. Et il m'a rapporté ceci. Je me suis tourné vers l'église Extravagance parce que tout le monde m'avait rejeté. Que c'est la seule église qui m'a ouvert les bras, qui m'a accueilli avec une véritable fraternité, avec un amour vrai, authentique. Je remercie Dieu pour cela, parce que cela a pu sans doute pu éviter aussi à cet homme un drame. Il est évident que son expérience chrétienne n'est pas achevée, n'est pas complète, puisque cette personne est toujours dans une recherche de cette délivrance. Et la question mérite d'être posée ce matin. Sommes-nous prêts à accueillir une personne qui vit avec une intensité, une telle intensité de problèmes, et être prêts à l'accompagner dans sa délivrance complète? Quand cette personne dit que partout les portes étaient fermées, il est évident que notre Église se trouve là-dedans, même si la personne ne l'a pas dit, ne l'a pas cité comme tel, ou si moi, j'avais eu un certain nombre d'informations juste au préalable. Et la question qui est sur la table est la suivante. Est-il possible que nous puissions avoir une si belle vérité sans cet accompagnement humain des hommes et des femmes qui sont désespérés au point d'avoir à plusieurs reprises tenté de mettre fin à leur jour et qui n'ont pas trouvé d'accueil, pas trouvé d'amour, pas trouvé d'amitié chez nous et qu'ils l'ont trouvé ailleurs. Voyez, cette question, comme elle l'est posée, n'est pas une condamnation. Cette question est une réflexion qu'il faut vraiment se poser. est-ce que nous sommes suffisamment ou tellement pris, préoccupés par des soucis ou des considérations qui sont devenues prioritaires, au point que nous ne voyons plus la détresse et que nous ne sommes plus en mesure d'accueillir et d'accompagner les gens en souffrance. Ça, c'est la perspective du réveil. Les gens peuvent vivre des expériences les plus extraordinaires, il leur semblera toujours manquer de quelque chose. Il ne faut pas qu'à nous, il nous manque aussi, nous, quelque chose, alors que nous avons tout pour que notre expérience soit complète, pour ne pas dire que notre expérience soit parfaite. Je dois de nouveau rencontrer cette personne. Nous devons faire un bout de chemin ensemble. Mais la question n'est pas est-ce que le pasteur Jean-Paul peut accueillir cette personne et recevoir cette personne, mais est-ce que notre communauté a la capacité, la structure d'amour de Jésus-Christ pour amener ces personnes-là à une délivrance complète. Ça, c'est la question qui se pose lorsque nous devons réfléchir sur réforme et réveil. Alors, laissez-moi un instant vous rappeler ce que j'ai partagé avec vous la dernière fois que j'ai prêché ici. Ça remonte à peu près à un mois de cela. Nous avions tenté de définir ce que c'est que l'adventisme. Nous avions tenté, avec toute la perplexité à la manière de Jean-Baptiste, lorsqu'on lui pose la question « qui es-tu ?» et que Jean-Baptiste était perplexe, parce qu'il est assez difficile, effectivement, de s'identifier, de trouver une identité précise quant à cette question « mais qui êtes-vous ? Qui es-tu ?» Et nous avons pu, dans notre définition, pouvoir placer l'adventisme non pas comme une religion, et j'avais souligné cet aspect-là, que, attention, l'Église adventiste n'est pas une religion, l'Église adventiste est un prophète, dans le sens, l'Église adventiste est un mouvement prophétique, mais à double niveau. D'abord, dans le lignage de Daniel, du fait de la parole apocalyptique, c'est-à-dire donc, nous sommes, comme nous disons, dans un mouvement, nous sommes un mouvement prophétique selon la prophétie apocalyptique, dans le lignage de Jean et dans le lignage de Daniel. Daniel et Jean sont les deux prophètes apocalyptiques que nous avons dans la Bible. Mais l'Église adventiste est aussi prophète dans le lignage de Jean-Baptiste, c'est-à-dire un mouvement prophétique, mais un mouvement précurseur, c'est-à-dire qui prépare la venue de Jésus. Et pour cela, il faut que le message soit christocentrique, il faut que le regard soit aussi essentiellement christocentrique, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne parle pas autre chose que de Jésus qu'il introduit justement aux autres. Et lorsque nous posons cette définition de l'identité adventiste comme telle, nous devons comprendre l'immense responsabilité qui est aussi qui repose sur nos épaules. Car nous sommes prophètes, donc c'est-à-dire, quand je dis nous sommes prophètes, vous avez bien compris que ce n'est pas chacun de nous qui sommes prophètes. C'est le mouvement qui est prophète. C'est le mouvement qui est prophétique, apocalyptique et en même temps précurseur. Cela donc va amener une responsabilité de prophète et une différence du coup, une différence non seulement dans le message, mais aussi une différence dans la manière de vivre, puisque Jean-Baptiste est naziréen. Et quand je dis dans le lignage de Jean-Baptiste, je parle ici le lignage du prophète Élie, parce que Élie était naziréen. Ça veut donc dire que cette église adventiste dont la vocation vient de Dieu, nous ne pouvons pas en douter. L'église adventiste est une église naziréenne. Autrement dit, non seulement nous avons un message prophétique apocalyptique, mais en plus, le message est porté par une manière de vivre, par un comportement qui diffère complètement de ce que tout mouvement religieux pourrait proposer. Donc, c'est ça qui fait notre spécificité, notre différence, mais aussi notre sacrifice. Car regardez bien, lorsque vous considérez Daniel et Jean, des prophètes apocalyptiques qui ont été isolés, qui ont été exilés, mais vous avez comme Jean-Baptiste ou même comme Jean, ce sont des personnes, des prophètes qui vont porter un sacrifice à un très haut niveau et parfois même jusqu'au prix de leur propre vie. Jean-Baptiste en prison va mourir en prison, sans même une délivrance. Et je peux comprendre qu'être adventiste, lorsqu'on est baptisé adventiste, il faut bien comprendre ce à quoi nous avons adhéré. Ce n'est pas à une religion. La religion n'est pas une création de Dieu. Et je vais même vous dire aussi ouvertement, la religion, c'est une invention du diable pour détourner les cœurs sincères qui ont une aspiration réelle et pour les détourner, les éloigner d'une expérience personnelle avec Jésus-Christ. La religion a ça pour objectif. Donc, ce que nous sommes en train de proposer à l'humanité est quelque chose qui est complètement différent. Mais cela peut aller jusqu'à des sacrifices comme Daniel, comme Jean-Baptiste. Et on peut comprendre qu'être baptisé donc, au sein de l'Église adventiste, c'est véritablement un engagement qui exige des sacrifices à tout niveau et qui nous impose d'être véritablement et complètement différent des autres. C'est ça la foi que nous avons épousée en quelque sorte. Si la vocation prophétique est une vocation que Dieu impose, je vais dire comme ça, voilà, l'Église que je suscite dans les derniers temps sera une Église prophétique et une Église prophète, le Naziréen, c'est un vœu. Le Naziréen, ou vous savez que le Naziréen ne devait pas consommer de l'alcool, s'habiller différemment, être privé d'un certain nombre de plaisirs que les autres, parfois même que la religion n'empêchait pas. Voilà pourquoi la dernière fois je vous ai dit, si quelqu'un vous dit, mais oh là là, votre religion là, c'est terrible. Mais ça peut se comprendre parce que nous ne sommes pas une religion. Donc je suis amené ce matin forcément à justifier ce que je suis en train de mettre devant vous. Mais regardez bien dans l'histoire de l'Église adventiste comment Dieu par étapes va poser les choses. Car en 1844, l'Église adventiste va revêtir effectivement cet habit de prophète apocalyptique, mais cette Église n'est pas encore dans le vécu naziréen. Pourquoi ? Parce que ça va, il faut découvrir cela, ils ne sont pas encore conscients, ça va prendre un moment et c'est vers 1888 que véritablement le message adventiste aboutit à un système beaucoup plus complet avec Jésus-Christ au centre. Parce que en fait, et c'est ça qu'Hélène White va constater, c'est que l'adventisme était en train de tourner à une religion, était en train de devenir, à cause de son légalisme, un mouvement religieux. Et Jésus-Christ n'était plus au centre, Jésus-Christ n'était plus placé au cœur même de ce message. Et c'est pour cela que donc, des réformes vont se faire au sein de cette Église, de ce mouvement comme un vrai prophète. Je prends un exemple de notre histoire que vous pouvez vérifier assez facilement. Vous savez que ce n'est pas Ellen White qui a découvert le message de la tempérance, par exemple, la pratique de la tempérance. Au contraire, lorsque quelqu'un, une sœur d'Église, est venue pour parler de cela, elle a même refusé cela en disant qu'il ne fallait pas mettre d'autres fardeaux encore sur l'Église avec tout ce que nous vivons, parce qu'elle sentait déjà le poids de ce que l'Église vivait. C'est par la suite, avec les études, parce qu'un prophète étudie, comme Daniel, chapitre 9, étudie le livre de Jérémie. On étudie, un prophète passe beaucoup de temps dans la parole de Dieu pour comprendre, pour examiner, pour rechercher, pour scruter, pour sonder et pour rectifier les choses. Ce n'est que par la suite que l'Église adventiste va intégrer au sein même de son vécu le régime, hein, voilà, ce matin ça m'a fait aussi plaisir de pouvoir entendre le programme, rappeler le programme New Star ici, parce qu'il le faut. C'est essentiel, ça fait partie, un prophète, un mouvement prophétique doit être en bonne santé pour porter un message aussi complexe, non pas pour nous, mais pour le monde. Le vécu adventiste, mes amis, est un vécu impossible. Si vous essayez de vivre ça naturellement, si vous essayez de vivre ça sans la puissance du Saint-Esprit, vous allez vous décourager, pratiquement. Parce que là, et voilà pourquoi la religion ne demande pas tout ça. Il faut vraiment une vocation spéciale, particulière à cela. Voilà, nous avions posé justement cet aspect-là et nous avions fait ressortir qu'à partir du 6e siècle, donc la prophétie de base de la prophétie apocalyptique, la statue de Daniel 2, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, Dieu ne va plus utiliser ce qu'on pourrait appeler une forme ou un mouvement religieux, mais un mouvement prophétique. Et ça commence avec le prophète Daniel. Et vous rappelez donc comment la statue de Daniel nous donne une description de ce que sera le monde, de l'évolution des différentes nations, pour terminer avec les pieds en partie de fer et en partie d'argile de la statue, qui constitue donc cette Europe, un nouveau système qui est mis en place. Et le but de cette statue, c'est pour dire que Dieu donne un temps à l'humanité, Mais viendra le moment où Dieu va, par la pierre, c'est-à-dire le retour du Christ, tout anéantir de l'histoire humaine. Autrement dit, donc, l'histoire humaine ne va pas durer éternellement. Voilà. Dans tout ce que nous avons ici, dans le temps que Dieu donne à l'humanité, que Jésus appelle le temps des nations, dans ce temps-là, dans cette période, Dieu va considérer ce bloc historique comme un tout, comme une plateforme qui tient ensemble, comme si c'était un seul plateau qui était devant ses yeux. Et quel est le mouvement que Dieu va considérer comme légitime? Nous avons dit, à l'époque de Daniel, à l'époque de Jean, et ensuite au XIXe siècle. Pourquoi? Parce que au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'humanité connaît une révolution. Dieu met en place le mouvement que son peuple va devoir porter avec Daniel. Mais c'est très intéressant, regardez bien, vous allez voir qu'au VIe siècle, le judaïsme est anéanti complètement en tant que religion. Le temple est détruit. Et qu'est-ce qui reste à ce moment-là? En Israël, il y a un reste du peuple là. Il y a un prophète qui est là. Vous savez lequel? Jérémie. À Babylone, dans la cour de Babylone, à l'extérieur, il y a le peuple de Dieu, une partie du peuple de Dieu qui est là. Qui Dieu place là? Ézéchiel. À l'intérieur du palais de Babylone, il y a des enfants de Dieu qui se trouvent là. Qui Dieu place là? Daniel. Et ainsi, regardez bien, à partir du VIe siècle, c'est un mouvement prophétique qui accompagne le message de Dieu. Jérémie en Israël avec ce qui reste là-bas, dans la cour de Babylone avec Ézéchiel, et à l'intérieur de Babylone avec Daniel. Et tout le peuple est encadré par un système de prophètes. Et ça va aller comme ça jusqu'à la fin. Donc Daniel, le premier. Ensuite, au deuxième siècle, parce que le quatrième siècle prépare une autre révolution, le moment où le christianisme va s'emparer du pouvoir romain et donner pendant 12 siècles cette religion chrétienne justement qui va faire aboutir sur l'Europe chrétienne particulièrement. Ça va être une grande révolution, le démarrage de cela. Et ensuite, au 19e siècle, autrement dit donc, ce qui va préparer l'époque actuelle. C'est-à-dire, écoutez bien, et nous aurons certainement l'occasion d'en faire la démonstration, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que vous voyez au XXe siècle et au XXIe siècle a été préparé, pensé, encadré, structuré au XIXe siècle. Autrement dit, nous sommes en train de vivre ce que le XIXe siècle a préparé. C'est le siècle qui a tout mis en place pour donner le 21e siècle actuel. Prenons par exemple l'économie. Vous savez que le système économique va jouer un très grand rôle à la fin des temps. Il y a des raisons pour cela. Mais il faut savoir que le programme économique qui est appliqué a été inventé au 19e siècle. Que ce soit le libéralisme, que ce soit le capitalisme, ou que ce soit le marxisme, le communisme, le socialisme, c'est vraiment le siècle du isme. Tout a été, y compris le féminisme, c'est-à-dire tous les mouvements que vous voyez se développer depuis le 20e, 21e siècle, a été préparé au 19e siècle. Donc le diable avait préparé une révolution pour le 19e siècle afin que le monde soit mené dans son combat final. Ne soyez pas surpris qu'au 19e siècle, Dieu suscite aussi au sein de son peuple un prophète qui va structurer aussi ce que sera, nous, notre ligne de conduite pour le temps actuel. Car, mes amis, si l'humanité en ce moment vit avec des critères qui ont été élaborés au XIXe siècle, ne soyez pas surpris que l'Église adventiste vit selon des critères qui ont aussi été élaborés au XIXe siècle. Moi, je suis fier que Dieu ait mis au sein de son peuple le livre d'Ellen G. White, qui constitue, mes amis, une perle, un trésor pour savoir comment, spirituellement, il faut tenir dans le temps actuel, dans le postmodernisme actuel. Donc tout ça a été préparé, c'est-à-dire nous sommes en train d'aller vers la bataille finale. Et cette bataille, le diable a affûté ses armes au 19e siècle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a affûté ses armes au 19e siècle. Les livres que nous avons et notre manière, toute la philosophie de vie que nous avons, ça a été élaboré au 19e siècle, aux États-Unis. combat pour combat, juste à savoir qui va gagner ce combat-là. Vous comprenez, c'est ce que je suis en train de mettre devant vous. Voilà pourquoi la chose a pris une telle tournure, une telle envergure. Je mets le même schéma prophétique, mais sous forme de frise ici. Babylone, Médépèse, Grèce, Rome et retour du Christ. Et en rouge, j'ai mis les deux venues de Jésus. Ce que j'avais souligné la dernière fois et que j'ai redit encore ce matin. Écoutez bien, dès qu'on est prophète et non pas religion, la religion c'est la répétition des gestes rituels. Mais dès qu'on est prophète avec un message dynamique, un mouvement dynamique, il y a des perplexités qui apparaissent. Prenons par exemple au niveau du temps. Regardez bien, à l'époque de Babylone, Daniel prêche que Jésus revient, c'est ça, la pierre qui vient frapper. Et Daniel va être dans une grande perplexité concernant la fin. Regardez où il est et regardez où nous sommes. Nous sommes plus près de ce retour de Jésus. Et Dieu va nous permettre de comprendre et de résoudre ce problème du temps par deux notions. Vous vous rappelez, le premier mot grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est quel mot? C'est le mot chronos. Chronos, c'est le temps qui s'écoule, le temps chronologique, le temps qui passe, hein, seconde, minute, jour, semaine, mois, année, etc. Tandis que le kairos, c'est le temps de l'immédiat. C'est le temps de la grâce qui est donnée maintenant. Voilà, c'est le temps décisif de la grâce. Dieu, en considérant des Babylones jusqu'au retour de Jésus, en considérant cette période historique comme un seul bloc, il fait de nous des contemporains à la fois de Babylone, donc de Daniel, de l'apôtre Paul, des apôtres qui suivent de l'Église primitive, tout ça, aux yeux de Dieu, c'est comme si c'était la même période, le même temps. Ce qui explique pourquoi Daniel peut dire « Jésus revient bientôt », l'apôtre Paul peut dire « Jésus revient bientôt », et nous pouvons dire « Jésus revient bientôt ». Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un schéma du kairos. C'est-à-dire que 25 siècles, 26 siècles, c'est peu. C'est très peu parce que pour chacun de nous, ça se joue sur l'échelle d'une vie. Imaginons un tel vit 70 ans, l'autre vit 80 années, ben, le message du retour du Christ se joue que sur cette période-là. Mais une vie peut être raccourcie. Je peux mourir. Je peux mourir d'un accident. Je peux mourir d'une maladie. Et ça se raccourcit. Donc on comprend alors la valeur personnelle, individuelle que Dieu donne à son message. Est-ce que toi tu es prêt à ce retour du Christ-là? Et nous entrons dans une forme de temps, en quelque sorte, qui nous permet de saisir à quel point le message du retour de Jésus se prêche dans un temps qui passe, qui s'écoule, mais il est considéré par le ciel comme une action immédiate. Et ça peut laisser beaucoup de perplexité parce qu'on ne comprend plus un moment donné. D'ailleurs, moi-même, en parlant, je me demande si je suis bien clair. Hein, le pédagogue n'est pas forcément toujours clair dans ce qu'il dit. Mais regardez Daniel. Daniel qui est ici. Daniel qui est le premier prophète apocalyptique. Et puis vous avez Jean qui apparaît à l'époque de Rome. Et puis vous avez l'Église adventiste qui est le troisième prophète apocalyptique qui apparaît juste avant le retour de Jésus. Daniel est perdu à un moment donné avec toutes ces révélations qui sont là. À un moment donné, il dit, mais je veux connaître, mais quelle est l'issue de ces choses? Est-ce que je participe à l'issue de ces choses? Parce que tu me fais parler comme si ça va arriver à mon époque. L'ange lui dit, écoute, il y a des choses qui doivent encore se passer. Toi, marche vers ta fin, repose-toi, mais tu seras debout pour ton héritage. Autrement dit, tu seras debout là-bas, tu vas mourir ici, mais tu seras debout là-bas. Donc, un prophète peut être perplexe, peut être perdu dans cette histoire de temps qui est proche, et finalement, le temps passe. On prêche dans un temps qui passe, quelque chose qui est dans une extrême proximité. Et de plus, regardez bien les deux lignes rouges que j'ai mises ici. Le mouvement adventiste, non seulement est un mouvement prophétique apocalyptique, mais en plus, il est un mouvement précurseur. Avant la première venue de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui doit venir. C'est un naziréen. Parce qu'on ne peut préparer la venue de Jésus que si on est dans la dynamique du naziréat. L'église adventiste qui est suscitée ici va se retrouver dans la même dynamique, c'est-à-dire, mais avec un double niveau. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un peuple sera à la fois prophétie apocalyptique et prophétie précurseur. Se retrouve dans l'église adventiste. Ne soyons pas surpris que nous sommes un mouvement complètement différent des autres. Comme Jean-Baptiste était différent des autres, comme Élie était différent des autres, comme Daniel était différent des autres, comme Jean était différent des autres. Cette différence-là est lourde et difficile sans doute à porter. Nous ne pouvons pas porter quelque chose comme tel sans une puissance particulière. Et regardez bien, Jean-Baptiste qui est ici, là, il croyait qu'il était là. Quand il se retrouve en prison, il est perplexe. Il est perdu. Il envoie deux disciples demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui doit venir ou il faut attendre un autre? Parce que forcément, vous êtes dans ce problème de temps. Pour lui, il était convaincu que les choses allaient finir. Et voilà que ça se prolonge. Mes amis, écoutez, il faut rendre justice à l'église adventiste. Quand on est prophète ou un mouvement de prophètes, prophétiques, on est forcément perplexe avec cette histoire de temps. Daniel l'a été. L'ange a dû le rassurer. Jean-Baptiste l'a été. Comment vous voulez qu'en 1844, l'église adventiste ne le soit pas? Eux aussi, ils étaient perdus dans cette affaire. Eux aussi, ils croyaient que c'était une proximité encore plus proche que celle que nous avons sur ce schéma-là. C'est tout à fait normal que vous aussi, vous commenciez à trouver le temps long. Parce que les prophètes ont trouvé le temps long. Que vous aussi, vous puissiez être quelquefois découragé, se dire, mais est-ce que je ne deviens pas ridicule avec un message chaque fois en train de dire que Jésus revient bientôt et que je ne le vois pas? Ça, c'est le vécu et Dieu comprend. Dieu comprend que vous puissiez passer par cette phase-là. Alors, l'apôtre Paul, à cet Edmond, lui, il est de tous les écrivains du Nouveau Testament, celui qui, sans doute, a le mieux cerné le problème. On va prendre trois textes exprès, justement, de cela. Le premier texte que je prends avec vous se trouve dans Hébreux, chapitre 10. Qui peut, si on ne tient pas compte de cette gestion du temps chronos et kairos, qui peut dérouter les textes bibliques pris comme ça, ça peut dérouter les meilleurs commentateurs. Hébreux chapitre 10, verset 37, vous l'avez? Regardez le texte. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Okay? Quand vous lisez ce texte, vous dites, tiens, donc les apôtres pensaient que Jésus allait revenir à leur époque. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Donc, ils pensaient que Jésus allait revenir à leur époque. Si nous prenons un autre texte, 2 Thessaloniciens chapitre 2, maintenant les versets 1 à 3. 2 Thessaloniciens, tournez quelques pages de votre texte avec moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Je le lis assez rapidement, le temps que vous cherchez, je commence à lire, après vous me rattrapez en cours. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour du Christ, regardez ce qu'il dit, et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'homme du péché et le fils de la perdition. Cela veut donc dire que l'apôtre Paul était bien conscient que Jésus n'allait pas revenir à son époque, qu'il y avait des choses qui devaient se passer. Et quand vous lisez la suite du texte, vous constatez que les apôtres prêchaient ce que l'apôtre Jean va écrire plus tard dans le livre de l'Apocalypse. C'est que ces gens-là étaient conscients qu'avant le retour de Jésus, il y allait y avoir du temps, que vous voyez ici avec toutes ces petites flèches que j'ai mis là, qu'il allait y avoir du temps qui allait se passer avant que Jésus ne revienne. Et s'il faut encore un dernier texte pour vous convaincre de cela, je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 7. Quand l'apôtre Paul parle du statut que nous avons, statut de ressuscité, Colossiens chapitre 3, entre autres, Éphésiens chapitre 2, verset 6, voilà notre statut, nous sommes ressuscités, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la promesse de l'Odyssée aussi. Verset 7. Regardez ce qu'il dit. « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Afin de montrer dans les siècles à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'apôtre Paul était conscient que Jésus n'allait pas revenir là, mais qu'il y allait y avoir des siècles qui allaient s'écouler avant que Jésus ne revienne. Donc, si quelqu'un ne fait pas attention, on va dire, oui, lorsqu'on tombe sur les textes de l'apôtre Paul, que Jésus revient bientôt, ou Jean ou Pierre, oui, mais les apôtres croyaient que Jésus allait revenir à leur époque. En fait, non. C'est qu'ils ont un raisonnement qui se joue sur deux mentalités différentes. Une mentalité de la gestion du temps, chronos, le temps qui passe. Là, Jésus ne va pas revenir maintenant. Il y a encore des siècles qui doivent s'écouler. Et la gestion du kairos, le temps immédiat, attention, parce qu'à l'échelle d'une vie, okay, vous pouvez être surpris. Vous pouvez être, ne pas être préparé justement à cela. C'est ainsi donc que la parole de Dieu dans ce bloc prophétique nous permet de finalement d'acquérir une sorte de nature divine. Nous participons à la nature divine. Mes amis, pour moi, il y a un avant, il y a un passé, il y a un présent, il y a un avenir. Je ne peux pas considérer le temps comme un bloc comme cela. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de voir à la fois le passé, le présent et l'avenir en même temps sur une seule plateforme. Eh bien, par la prophétie apocalyptique, vous avez remarqué que Dieu nous ramène à sa vision à lui. Nous aussi, nous devons être capables de croire que Daniel a prêché le même message que nous prêchons aujourd'hui, avec la même urgence que nous prêchons aujourd'hui. Parce qu'il faut faire entrer des citoyens dans le royaume des cieux. Or, trop de citoyens du royaume des cieux meurent sans avoir acquis le passeport, sans avoir acquis la nationalité céleste. Pourquoi? Parce que je ne prêche plus, parce que je me suis découragé, parce que je ne crois plus à cela, parce que c'est trop, parce que je souffre, mes amis, le kairos. Si, on aurait souhaité que ça, vraiment, ça arrive au plus vite, mais le chronos, c'est quelque chose qui fait souffrir. Donc, bien comprendre que seule une puissance prophétique sera capable d'achever, vous voyez, nous sommes à double niveau maintenant, sera capable d'achever cet aspect-là. Donc l'Église adventiste n'est pas une religion. Le mot religion n'existait pas dans l'Antiquité. D'ailleurs, le mot n'est même pas dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'y avait pas de mot. La religion, c'était un mot qui a été inventé par, ou plutôt qui avait été repris, de l'Empire romain par la religion chrétienne, par le christianisme romain, justement pour pouvoir utiliser un vrai pouvoir de domination sur les hommes. Il y a tout au plus trois textes dans le Nouveau Testament qui ramènent au mot qu'on pourrait traduire par religion, puisque en grec ou en hébreu, le mot n'existe pas. Donc c'est venu après cela. Le premier se trouve dans Actes 25, verset 19. C'est le mot « desidaimonia ». Desidaimonia. Il y a un mot là-dedans qui doit sonner. Okay? Desidaimon. Daimon. Démon. Autrement dit, donc, la religion, c'est le culte des démons. Nous avons donc une première définition étymologique qui nous permet de comprendre ça. Prenez avec moi Actes chapitre 25. Actes 25. C'est des Romains là qui parlent cette fois-ci. Comment ils qualifient les Juifs, le judaïsme? Parlons de Paul qui était en conflit avec le judaïsme, verset 19. C'est Festus qui rapporte au roi Agrippa. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Voilà, c'est le mot desidaimonia, parce que les Romains qualifiaient de culte de démons toute religion qui n'était pas en rapport avec l'Empire romain. Voilà une première définition. Il y a une autre, c'est le mot treskeia. Treskeia que nous avons dans Actes 26, 5, que je vous invite, c'est juste à côté, c'est pas très loin. Okay. Attention au mot triskeia. L'apôtre Paul va préférer utiliser ce mot au lieu de desidaimonia qui est vraiment péjoratif. Mais qu'est-ce que le triskeia? D'abord, je le lis. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la partie ou la secte la plus rigide de notre triskeia, de notre religion. Qu'est-ce que le triskeia qui a donné religion, pas vraiment, en tirant sur les cheveux, hein? Le triskeia, c'est un ensemble d'habitudes. Ce sont les habitudes rituelles. Avec la pensée évoluant, on a fini par penser une cérémonie, une observation cérémonielle. Mais prenons par exemple, il faut savoir que Flavius Joseph utilisait le mot triskeia pour parler de Hérode qui avait l'habitude d'éplucher une pomme d'une certaine manière. Autrement dit, donc c'est un mot, triskeia, qui a donné le mot religion par extension, c'est un mot qui est plutôt un mot de la vie de tous les jours pour parler des habitudes. Prenons par exemple, vous vous levez le matin, vous avez les mêmes gestes, hein, vous vous levez à telle heure, vous allez aux toilettes, à la salle de bain, vous mangez, vous vous habillez. On va dire, cet ensemble d'habitudes peut être considéré comme une religion, vous avez votre religion. Peut-être je devrais prendre un autre exemple. Imaginons un couple, fête l'anniversaire de leur mariage tous les 25 septembre de chaque année. Et tous les 25 septembre de chaque année, ils disent à leurs enfants, écoutez, là, c'est papa, maman, là, c'est nous, okay. On prend un billet d'avion, on va à l'île Maurice, on passe une semaine, voilà, chaque année, ça se répète. Oui, ça devient une habitude, mais une habitude sacrée. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas que les autres mettent la main là-dessus. Vous ne voulez pas, ça, c'est sacré, ça, c'est pour nous. Voilà, ça, c'est exclusif. Voilà, c'est devenu, voilà, anciennement, on qualifiait ça de religion, parce que c'est une habitude, presque une obligation que vous vous imposez, que vous ne voulez pas que les autres touchent. Voilà donc un mot ordinaire qu'on va utiliser pour des pratiques dites sacrées au niveau de Dieu, en quelque sorte. L'apôtre Paul va essayer. Mais quand vous prenez, par exemple, Jacques 1, 26, 27, et c'est là qu'on voit que c'est encore plus cru, et je vous invite à le prendre, hein, Jacques, chapitre 1er, où Jacques va nous donner une définition de la religion. Jacques, chapitre 1er, le verset 26, regardez ça. Si quelqu'un croit être religieux, utilise triskeia ici, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. On aimerait bien comprendre c'est quoi la définition de la religion. Et regardez le verset 27, sa définition de la religion. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde, donc dans la vie quotidienne, quoi, la piété morale dans la vie quotidienne. Tiens donc, moi je croyais que la religion c'était d'aller à l'église avec sa Bible, son cantique, une façon de se mettre à genoux, de prier, d'adorer, etc. Vous avez remarqué que quand il définit la religion, il le définit comme justement quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de considérer comme religieux, mais plutôt comme du social. Okay? Prenez l'habitude d'aller visiter les veuves, les orphelins. Prenez l'habitude, quand il y a une décision entre le pur et l'impur, de toujours choisir le pur, parce que ce n'est pas ici qu'on choisit ça. C'est dans la vie de tous les jours qu'on est confronté à cela. Et on se rend compte que la religion, telle que la Bible la définit, n'est pas justement religieuse telle que nous, on l'entend. Et ça, je pense que ça vaut la peine de pouvoir en discuter. Alors, donc, la religion n'est pas religion dans le sens religieux. Et poussons un instant. Lorsque nous arrivons à l'Europe qui est ici, prenons par exemple la Constitution européenne, l'Europe. L'Europe, c'est une religion. Non. Dans quel sens, je vais dire. Vous voyez, lorsque on a mise en place, ou essayer de mettre en place la Constitution européenne, il y a eu tout un débat là-dessus. Est-ce que l'Europe a des racines chrétiennes ? Et finalement, on en arrive à cette sémantique de l'Europe chrétienne. L'Europe est chrétienne. Pourquoi ? Parce que le Vatican revendique l'Europe comme étant une création de la religion. Et effectivement, vous pouvez écrémer et enlever à cause de la laïcité ce qui ressemble à la religion, mais dans sa façon de fonctionner, l'Europe est religieuse, l'Europe est chrétienne. Si par exemple on essaye, bon, imaginons qu'un empereur romain arrive, je ne sais pas moi, hein, on le fait revenir par un certain miracle, on le met sur les Champs-Élysées un 14 juillet. Il va voir les défilés militaires et tout ça. Il va dire, ben, c'est ça la religion. C'est la religion. Parce qu'il va avoir un ordre, il va avoir une discipline, il va avoir une force. Il va dire, maintenant, il n'y a plus qu'à se soumettre à quelque chose qui vous est supérieur. Vous appelez ça Dieu, si vous voulez, appelez ça la nature, appelez ça la raison, appelez ça ce que vous voulez. Et donc, chez les Romains, la religion était civile. Ce n'est pas la Révolution française qui a inventé la religion civile. Les Romains l'avaient déjà inventée. Donc, dans ce sens, comprenez bien que l'Europe est vraiment une vraie religion. Pourquoi ? Parce que la perspective politique, la politique est soutenue par le fait religieux, par un pouvoir religieux. Dans ce sens, l'Église catholique est une vraie religion. L'islam est une religion. Pourquoi ? Parce qu'il y a la politique dedans. Le protestantisme, jusqu'à un certain point, mais l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, va tomber aussi dedans. Ils vont devenir une religion. Pourquoi ? Parce que la politique va se mêler à tout ça. L'hindouisme est une religion. Le bouddhisme est une religion. Pourquoi ? À cause du pouvoir politique qui constitue l'autre pilier qui les soutient. L'adventisme n'est pas une religion. Et d'ailleurs, s'il faut encore vous convaincre concernant l'Europe, on pourrait se poser la question, mais pourquoi le drapeau européen contient ces 12 étoiles avec ce fond bleu ? Simplement parce que ça vient de la Vierge Marie, la couleur de Marie étant, le manteau de Marie étant bleu, avec cette couronne de 12 étoiles qui se trouve derrière. Et c'est pour cela aussi, par exemple, que l'adoption de ce drapeau européen s'est faite le 8 décembre 1955. Mais le 7 décembre 1955, où étaient les pères fondateurs de l'Europe que nous considérons là actuelle. Où est-ce qu'ils étaient, Schuman, Adenauer, tout cela? Ben, il y en a là-dedans qui étaient dans la cathédrale de Strasbourg, devant la Vierge Marie. Il ne faut pas être surpris que le 8 décembre, okay, on adopte ce drapeau qui est l'emblème de la Vierge Marie. Il ne faut pas être surpris pourquoi le 8 décembre. Pourquoi le drapeau européen a été adopté un 8 décembre? Parce que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. C'est la fête aussi de l'adoption du drapeau européen. Donc derrière tout ça, il y a bien la religion, c'est bien une religion. Donc le Vatican a tout à fait raison de revendiquer l'Europe comme une Europe religieuse. Tout à fait raison. Donc ils sont dans leur logique. Donc dès lors que nous avons compris tout cela, que, mes amis, il n'y a rien de plus dangereux que la religion. La religion, c'est une invention du diable pour détourner les gens et les figer dans des gestes, dans des rituels, dans des habitudes pour les empêcher justement de vivre une expérience personnelle avec leur sauveur. Et cela vaut la peine qu'on termine avec cette pensée-là. Okay? Le desidaimonia ou le triskeia. Si, par exemple, nous ne sommes pas une religion, mais qu'est-ce qui est en face ? Qu'est-ce qui s'oppose à cela ? Dieu n'a pas suscité l'Église adventiste pour être une religion, mais a suscité l'Église adventiste pour l'adoration. Quand Jean est complètement perdu, chapitre 19 de l'Apocalypse, chapitre 22 de l'Apocalypse, il se jette devant l'ange pour l'adorer. L'ange lui dit, je suis ton compagnon de service, adore qui ? Adore. Le mot adorer est dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans le jardin d'Éden. Dieu va instituer l'adoration par la religion. Et il faut comprendre que Jean est complètement perdu sous le coup de l'émotion de telle révélation. Mes amis, la religion, c'est un boulevard vers l'idolâtrie. Voilà pourquoi, quand nous parlons de réforme et de réveil, si l'Église adventiste devient une religion, mes amis, nous devenons la pire des choses qui puissent exister sur cette terre. Parce que la religion ne transforme pas. La religion ne transforme. Au contraire, la religion rend les gens pires. Et si, en tant qu'adventistes, nous comportons okay, comme si c'était une religion, nous allons devenir pires que ce que nous sommes. Et permettez-moi de terminer ce que je suis en train de partager avec vous ce matin par cette opposition religion-adoration, par la parabole qui a été lue tout à l'heure par notre frère Jean. Ça se trouve dans Luc 18, versets 9-14. Et pour vous faciliter la tâche, et sachant qu'à une certaine heure, il faut que j'accélère, donc j'ai mis le texte ici, le texte qui a été lu tout à l'heure. On appelle cette parabole la parabole du pharisien et du publicain. En fait, c'est la parabole du religieux et de l'adorateur. Et c'est Jésus qui, dans toute sa subtilité, va nous permettre véritablement maintenant de comprendre en son fond essentiel la différence qu'il y a entre la religion et l'adoration. Écoutez bien. L'Église adventiste est définie comme étant une organisation religieuse. Il ne faut pas se braquer contre cela, parce que c'est une définition sociologique. Les gens n'ont pas d'autres mots pour caractériser, ben, effectivement, quand nous venons ici. Nous venons, nous prenons des cantiques, nous chantons des cantiques, nous ouvrons la Bible, nous nous mettons à genoux, nous prions, etc. Nous prêchons la parole de Dieu. Pour les gens, c'est la religion. Parce que pour eux, dès qu'il y a la forme, c'est le fond. Vous comprenez bien cet aspect-là, ok? Donc, quand quelqu'un me dit, « Ah, tu es pasteur de la religion adventiste », je lui dis « Oui ». Je ne vais pas discuter des eudaimonia treskeia avec lui, ok? Je pense qu'il se comprend quand il dit ça, et moi, je comprends quand je dis « Oui ». Je ne vais pas débattre avec les gens. Ellen White utilise le mot « religion », parce que de toute façon, il faut bien un mot quelque part. Mais là où nous sommes, lorsque nous nuançons, et pourquoi nous avons, nous, besoin de nuancer, parce que cela va faire toute la différence au bout. Car regardez bien cette parabole qui se trouve ici. On nous dit, deux hommes, et j'aime quand Jésus enseigne comme ça, hein, deux hommes, c'est-à-dire deux personnes du même sexe, deux hommes de masculin, ils montent, ils font la même chose, de la même manière, au temple, dans le même lieu, pour prier, pour faire la même chose. Regardez bien, dans la forme, les deux se ressemblent et font exactement la même chose, dans la forme. Okay. Et on nous donne l'information, l'un était pharisien, l'autre était publicain. Arrive maintenant l'action à l'intérieur. Les deux vont prier. Et ça, ça va faire la différence. Cette nuance, frères et sœurs, vous pouvez la comprendre, cette nuance-là. Peut-être pas forcément les gens de l'extérieur, chrétien, christianisme, religion, etc. Mais faites bien la nuance. Lui, il prie, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Celui-là, il a le fort de confesser des péchés, mais pas les siens. Okay? Il confesse le péché des autres. C'est intéressant de voir que effectivement le publicain, lui, il dit simplement qu'il est pécheur. Vous avez remarqué qu'il n'énumère pas ses péchés. Nous, peut-être on aurait aimé savoir... Non! Okay. Alors, regardez bien ça. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et quelquefois, quand Jésus enseigne dans la manière de poser les choses, nous comprenons aussi le trouble de ce pharisien qui est un religieux. Il est un religieux vraiment au sens strict du terme. Okay? Regardez, je te rends grâce de ce que je ne suis pas. Voilà ce que je ne suis pas. Reste des hommes, serviteurs, ravisseurs, adultères. Verset 12, je jeûne deux fois, je donne la dîme de tous mes revenus. Qu'est-ce que vous remarquez? Il dit, voilà ce que je ne suis pas. Et voilà ce que je fais. Qu'est-ce qui manque entre les deux? Voilà ce que je ne suis pas et voilà ce que je fais. Qu'est-ce qui manque entre les deux? Ce que je suis. Oui. Et vous avez remarqué, quand le publicain va prier, il va dire, « Oh Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis. » Okay. Vous voyez, comme quoi, hein, quand on est dans l'adoration, on retrouve son identité devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez quelqu'un qui arrive avec une forme, avec une gestuelle, avec un rituel. Il entre et il ressort. Pratiquement pareil. Rien n'a changé. Simplement qu'il a exposé devant Dieu. Et la religion, c'est cela. La religion, c'est un ensemble de formes. C'est un devoir. Je viens pour accomplir mon devoir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier, je dois dire certaines choses, je dois m'asseoir de telle façon, je dois me mettre à genoux de telle manière, je dois chanter de telle manière, Et tout ça est carré, tout ça est figé dans des formes. La religion est tellement habitude, le treskeia, c'est cela, qu'on finit par croire que c'est un ensemble répété d'habitudes qui amène la faveur de Dieu. C'est ça la religion. La religion, c'est, je vais essayer de faire changer les dispositions de Dieu à mon égard. Comment? En essayant de l'apaiser. Et là, vous êtes dans l'idolâtrie alors qu'il n'y a pas d'idole. C'est-à-dire que, voilà, quelles sont les dispositions de Dieu devant moi? Ben, je vais lui montrer mes bonnes œuvres et Dieu est satisfait de moi. Regardez l'autre, comment il est. Qu'est-ce qu'il amène exactement devant Dieu? Okay, pour comprendre cela, dès le départ, les deux font la même chose. Et la différence va éclater à la fin. Qu'est-ce que cela veut dire quand nous venons à l'église pour adorer Dieu le sabbat matin? Il n'y a pas 50 façons de venir ici. Vous savez, ça se ressemble. Prenons par exemple votre façon de prendre la voiture et d'arriver jusqu'ici, c'est la même manière, vous faites la même chose chaque sabbat, n'est-ce pas? Il n'y a pas 50 façons d'entrer ici, vous allez choisir votre place habituelle, vous allez vous asseoir, on va vous demander de prendre des cantiques, vous allez prendre cantiques, vous allez chanter de la même manière, vous allez ouvrir la Bible de la même manière, etc. Ensuite passe le panier des offrandes et de la dîme. Il n'y a pas 50 façons de mettre la dîme dans un panier, ok? Ok, chaque mois vous avez l'habitude de mettre par exemple 100 €, c'est un exemple. 100 €, vous avez écrit 100 €, chaque mois vous prenez, vous posez. Si on regarde de l'extérieur, tout ce que vous faites se ressemble mois après mois, sabbat après sabbat, etc. Voilà. Dans la forme, c'est cela, ça se ressemble. Mais il y a quelque chose, frères et sœurs, qui diffère. Vous savez laquelle? C'est la façon dont vous venez ici, les dispositions qui sont en vous, quand vous venez ici chaque sabbat. Car vous ne venez pas avec les mêmes dispositions. Il y a des jours où vous venez ici avec joie, en sifflotant, en déposant votre voiture, en disant bonjour à tout le monde, vous allez bien, je vais bien, ok. Et vous chantez là-dedans d'une manière incroyable, tellement vous allez bien. Il y a des sabbats, vous avez avec les mêmes gestes, vous arrivez ici, mais vous n'êtes pas bien. Donc vous dites moins bonjour, vous êtes pressé de vous asseoir dans les bancs, et peut-être que vous n'allez pas chanter. Pourquoi? Parce que les dispositions sont différentes. Au fond, et c'est là qu'on commence à comprendre, c'est que ces deux hommes qui, au niveau formel, se ressemblent, au niveau du fond, au niveau de leur histoire, ils ne se ressemblent pas. Quand vous amenez votre dîme de 100 €, pour le trésorier, le mois d'août, 100 €, mois septembre, 100 €, mois d'octobre, 100 €. Il voit 100 €, c'est-à-dire 100 € reste 100 €. Mais quelle est l'histoire qu'il y a derrière ces 100 €-là? Il est très possible que ce mois-ci, vraiment, tout est bien au niveau des comptes, des finances, 100 € a été donné facilement. Mais il y a des fois où ça a été dur. On a trimé, il y avait des dépenses supplémentaires, on s'est privé dans la maison, on a mis quand même 100 €. Le trésorier, lui, il ne voit pas l'histoire derrière, il voit seulement le chiffre, il dit « ok, c'est la forme okay. ». Et vous voyez cette histoire-là, c'est ça que Dieu va récupérer dans les formes qui se ressemblent à chaque sabbat. Autrement dit, quand Dieu va prendre votre 100 €, il prend l'histoire pénible qui est derrière, ou bien il prend la joie qui est derrière ce don. Autrement dit, pour Dieu, 100 € ne ressemble pas à 100 €. Autrement dit, pour Dieu, votre présence d'un sabbat ne ressemble pas à l'autre présence. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est quelle est l'histoire que vous avez amenée devant lui ce sabbat matin-là. C'est une histoire joyeuse, je prends. C'est une histoire malheureuse, je prends. Et Dieu enregistre votre histoire. D'ailleurs, dans Luc 21, lorsqu'on dit, oh, bon, Jésus était au temple, tout le monde amenait beaucoup d'argent. Il y a là une pauvre veuve qui amène deux petites pièces. Paf, paf. Ça vaut rien. C'est vrai, ça vaut rien. Jésus dit devant le ciel, cette femme, elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a tout donné de ce qu'elle avait. Ce n'est pas le superflu. Elle avait besoin de ça et elle s'est sacrifiée. Voyez, qu'est-ce que l'adoration exactement? L'adoration, c'est ceci. Vous écoutez la même parole, la même prédication, nous chantons le même cantique, nous asseyons sur le même banc et sans doute nous sommes habillés plus ou moins pareil. Mais l'histoire, notre histoire est différente. Et Dieu veut cette histoire-là quand les hommes ne voient plus. Dans l'adoration, il y a une expérience qui est personnelle. Et remarque bien, ce n'est pas Dieu qui doit changer de disposition. Parce que quand vous venez à l'adoration, Dieu est toujours bien disposé. Mais c'est l'homme qui change. Alors, vous avez remarqué, quand le publicain entre et quand il ressort, il n'est plus pareil. Donc l'Église adventiste, quand nous parlons de l'adoration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous entrons ici pour ressortir avec une transformation. S'il n'y a pas transformation, il n'y a pas eu adoration. En quelque sorte, ok? Quelquefois, ça arrive, j'entends cette phrase, je me dis, quand nous venons à l'église, il faut laisser nos problèmes, nos soucis dehors. Et nous entrons. Alors, je suis à 10% d'accord avec ça. Ça veut dire à 90%, je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là. 10% pourquoi? Parce que vous pouvez dire ça à quelqu'un quand il est bien. Vous savez, quand quelqu'un est bien, vous lui dites, entre mon frère, mais laisse tes soucis dehors. Parce que cette personne a suffisamment d'assises psychologiques et biologiques pour pouvoir laisser ses petits soucis dehors et entrer avec le meilleur. Mais quand quelqu'un n'est pas bien, quand quelqu'un est en dépression, quand quelqu'un est complètement anéanti, quand quelqu'un est dans une misère morale extrême, Vous croyez vraiment que quand on franchit le seuil de ce lieu, on est passé par une ligne magique et tout reste dehors, et moi j'entre, et tout d'un coup j'étais triste et je deviens sourire? Non! Mes amis, ne dites jamais à quelqu'un qui n'est pas bien quand il entre dans l'église, laisse tes soucis dehors. Parce que ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, Jésus lui demande d'emmener ses soucis devant lui. Vous imaginez un seul instant que le publicain, il entre au temple, il laisse ses problèmes dehors et il entre. Ben, qu'est-ce qu'il emmène devant Dieu alors? Qu'est-ce que Dieu va résoudre? Non, vous devez entrer ici avec ce qui pèse sur vous. Et si vous êtes triste, et si vous n'avez pas envie de chanter, et si vous avez envie de pleurer, c'est ce que Dieu veut prendre de vous. Okay? Il y a des jours où vous chantez, il y a des jours où vous ne chantez pas parce que vous n'êtes pas bien. Ne croyez pas que celui qui chante plus fort à côté de vous, qu'il est plus spirituel. Non, simplement qu'il va mieux, c'est tout. Donc l'adoration, c'est quoi? C'est qu'il y a un point commun, certes, mais tout le monde est différent. Et Dieu veut vivre une particularité, une intimité avec ce que vous êtes, comme vous êtes. Et c'est lui qui va vous changer. C'est lui qui va vous transformer. L'expérience est donc personnelle. La religion, c'est, ok, Dieu attend que j'amène 100 euros, Dieu attend que je sois à l'église, Dieu attend que je chante. Voilà, ça c'est la religion, c'est le formel. Je remplis mon devoir. Ça, c'est la religion. Mais mes amis, nous ne sommes pas ici pour l'adoration, nous pour la religion, nous sommes ici avec la dynamique de l'adoration. C'est que Dieu nous parle personnellement. Dieu veut vivre quelque chose avec ce que nous sommes devenus. Ce n'est pas Dieu qui change, c'est l'homme qui change. C'est pourquoi le religieux, il ne change pas lui. Il entre, il ressort pareil. Le publicain, lui, il change. Il entre et il sort différent. Ça, c'est l'expérience que nous sommes appelés à vivre, mes amis. Sommes-nous prêts, pensez-vous, à comprendre cet aspect personnel, c'est-à-dire à accompagner? Car il n'y a rien sans doute de plus difficile que d'accompagner quelqu'un qui est dans la dépression, qui va entrer dans l'église. Quelqu'un qui a des problèmes où on se sent impuissant. Parce que nous sommes capables de voir cela et de l'accompagner jusqu'à sa délivre. C'est ça, c'est pour cela que l'église adventiste a été suscitée, à cet accompagnement-là. Et cela demande qu'on change nos critiques, qu'on arrête de critiquer, parce que la religion critique. C'est la religion qui ressuscite les péchés des autres. C'est la religion qui confesse les péchés des autres. Par l'adoration, ça demande qu'on change nos paroles à l'égard des autres. Ça demande qu'on ne ressuscite pas ses mauvaises actions à lui dans son passé. Parce que l'adoration, c'est une transformation complète. Et le Saint-Esprit, dans ce lieu, attend que nous soyons transformés. C'est nous qui devons changer. Voilà la puissance que Dieu a placé au sein de cette adoration ici pour que nous puissions ensuite aller à l'extérieur et dire aux gens, venez chez nous. Venez expérimenter cela. Venez expérimenter la guérison. Venez expérimenter la délivrance. Et cette personne, quand elle arrivera ici, va trouver des gens qui l'accueillent, des gens qui sont capables de lui ouvrir les bras, de lui mettre la main sur l'épaule comme Jésus lui aurait mis sur l'épaule, de lui sourire comme Jésus lui aurait souri, de prier avec ou de prier pour cette personne comme Jésus exactement aurait fait. C'est la transformation par laquelle l'église du tampon, comme toutes les églises à La Réunion, doit connaître pour que nous puissions répondre à cette personne qui fréquente, qui va à l'église extravagante, mais voilà, qui a besoin de quelque chose, qui a besoin d'une vérité certainement supplémentaire avec plus de puissance que nous détenons ici. Savons-nous accueillir les gens pour que Jésus puisse les changer et que leur vie soit une révolution complète? Mes amis, je vous donne rendez-vous cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen.